temps l'architecture grecque. Je vous ai ensuite parlé, c'est vous qui m'avez parlé, de l'architecture romaine. Aujourd'hui, on va avancer un petit peu dans le temps. J'ai voulu qu'on évoque des questions autour de l'architecture romane et gothique, à partir d'ailleurs d'édifices religieux. On va pas, pour l'instant en tout cas, aborder l'architecture profane. Et donc, ça va être le thème de la journée d'aujourd'hui. Et je passe très vite sur nos petites règles pour commencer directement, rapidement, le premier chapitre. Après tout, pour j'allais dire étudier l'architecture, il faut déjà connaître les monuments. Hein. Si on ne les connaît pas, on ne va pas aller très loin. Donc, le premier exercice va être tout simplement la reconnaissance d'un certain nombre de monuments, romans, gothiques ou les deux. J'ai décidé de sélectionner une vingtaine de cathédrales françaises. Donc, je ne suis pas sorti en dehors des limites du territoire. On va donc les regarder. Vous allez essayer de les reconnaître, hein, les découvrir. Encore une fois, en histoire de l'art, c'est d'abord l'œil qui doit travailler. Hein. Si on ne connaît pas les monuments, ben on ne peut pas aller plus loin. Hein. Et puis, on essaiera peut-être aussi de voir certaines caractéristiques des monuments en question. Voilà le but de ce premier chapitre, de ce premier travail. Voilà. Alors, première cathédrale que je vous propose, celle-là. Où est-on ?
Amiens, peut-être. Amiens ? Mais non, ce n'est pas comme ça, les clochers d'Amiens.
C'est le nord ?
C'est pas
Rouen ? Rouen ? J'entendais quoi d'autre ?
Orléans ?
Non. C'est bel et bien Rouen. Hein, cette cathédrale, c'est la cathédrale de Rouen. Qu'est-ce qui la caractérise, peut-être en deux mots, cette façade de la cathédrale de Rouen ?
Monumentale.
La flèche entre les deux.
Oui, absolument. Oui. Oui.
Il y a deux tours.
Oui. Oui. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez dire en voyant la façade de cette cathédrale ? Qu'est-ce qui la caractériserait ? Qui d'ailleurs caractérise beaucoup de cathédrales. Enfin, celle-là, de manière, je crois, assez visible.
Elle a des proportions curieuses.
Alors, elle a des proportions très curieuses,
parce que le centre est nettement plus bas. Et puis, elle fait tasser, je trouve.
Elle est très, très large. Hein. C'est en effet une cathédrale extrêmement large. Oui.
On dirait qu'elle a qu'une façade et qu'elle n'a pas de profondeur.
Oui, alors il y a de la profondeur, mais c'est vrai qu'on ne dirait pas forcément. Elle a un côté effectivement un peu fait en plusieurs temps. Hein. C'est d'ailleurs ce qui fait ce côté un peu disparate de la façade. Hein. Par exemple, à votre avis, qu'est-ce qui est là sur cette façade plus ancienne, plus récente ? Voilà, effectivement, là on a une partie plus ancienne, hein, vous le voyez. Hein. Là on a des parties par contre plus tardives. Bref, cette cathédrale de Rouen. Effectivement, une cathédrale faite en plusieurs temps. D'ailleurs, vous voyez, les grandes périodes de construction vont de 1145 à 1485. Hein. Vous voyez, des monuments comme ça, ça se construit pas en 5 minutes. Bref, on a là quelque chose qui a beaucoup pris dans le temps. Cathédrale de Rouen. Et celle-là. Comme ça, ce sont que des cathédrales françaises.
Il
y a un petit détail sur cette façade qui permet de la reconnaître entre toutes. Disons ça, je ne dis pas grand-chose. Hein.
Entre les deux tours, il y a des statues que vous n'avez pas du tout.
Oui, effectivement, là. Oui, c'est d'ailleurs un ajout tardif que celui-ci. Cathédrale assez tôt, d'ailleurs. Hein.
Bon.
Elle n'est pas très élevée.
Pardon ?
Pas très élevée.
Oui, enfin, quand on est devant, on trouve quand même que c'est pas mal. Hein, c'est pas la plus haute cathédrale de France.
La profondeur en avant des portes.
Oui, effectivement.
C'est un peu inhabituel. Hein.
Le devant des portails, est évidemment, ils ont l'air d'être très creusés, si j'ose dire. Oui. En fait, il y a surtout qu'on a fait des sortes de...
D'avancées,
de haut ventre, entre guillemets, qui sont très, très spéciaux.
C'est dans un climat pluvieux.
Oui, c'est pas, on n'est pas à Nice. Quoi.
Le ciel est bleu, mais...
Non, en fait, la chose, ça va peut-être vous mettre sur la voie, je ne sais pas, parce que c'est un détail assez amusant. La chose qui différencie des cathédrales par rapport à toutes et qui permet de la reconnaître, c'est ce qui se passe dans les tours.
Dans les tours.
Vous êtes dans les tours là-haut, des représentations de vaches.
Ah, c'est Laon.
Pardon ?
Laon.
C'est Laon. C'est la cathédrale de Laon. Hein. Parce que Laon, je ne sais pas si vous avez déjà allé à Laon, très belle ville.
Oui, mais on m'avait
très passionnante. Hein. Et la ville, dans la ville de Laon, il y a donc cette cathédrale tout à fait étonnante. Et ce qu'elle verra est sur une colline, enfin en hauteur. Hein. Et on dit que pour construire la cathédrale, on a évidemment fait travailler beaucoup de bœufs. Hein. Et pour remercier les bœufs du travail qu'ils ont fait, on les a statufiés et mis dans les tours de la cathédrale. Hein. Bon, quelle est la valeur de ça ? Je ne sais. C'est peut-être d'ailleurs assez vrai. Hein. J'ai pas vérifié. Mais voilà, c'est ce qui permet de reconnaître la cathédrale de Laon. Il y a aussi une cathédrale alors, qui a été faite sur une période plus resserrée. Hein, vous le voyez, hein,
200 ans. 150,
voilà, c'est ça. Hein.
Ils étaient pressés.
Voilà, donc on est là sur une période un peu plus courte. Alors, on continue.
C'est pas
très, très très compliqué. Vous caractériseriez comment la cathédrale de Paris, la cathédrale Notre-Dame?
Elle a trois portails. Elle a trois portails, mais elle a cinq nefs.
Oui.
Elle est bien symétrique.
Oui. Alors, il est possible, il est même certain que les travaux de restauration du 19e ont un peu épuré hein, certaines des irrégularités éventuelles à la cathédrale, mais vous avez raison, hein, elle est quand même très, comment dire, très cohérente, on va dire.
Oui, hein. C'est ça.
Sa construction a commencé vers quelle période ?
Douzième.
Donc finalement, vous qualifieriez cette cathédrale, dont la construction commence dès le XIIe siècle, d'assez régulière, épurée, très géométrique, très symétrique. On est assez loin d'ailleurs de Rouen, par exemple, hein, où on a vu une cathédrale très large, une proportion un peu bizarre, faite un peu de briques et de brocs, hein, différentes époques. Là, on a l'impression d'avoir quelque chose qui a été, j'allais dire, plus homogène. Hein. Alors là aussi, on a quand même une construction sur un siècle, vous voyez, relativement homogène. Alors, bien sûr, comme tous ces grands édifices, hein, il y a eu des constructions et des étapes plus tardives, bien entendu. Hein. Il y a des chapelles latérales, etc., qui ont pu être faites plus tard. Mais enfin, le gros de la cathédrale, c'est 1163-1150. Hein. Donc, vous voyez que la construction commence effectivement dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a devant la rosace ?
Trois personnages, trois figures, oui. Si je ne m'abuse, je crois il y a deux anges, et je crois qu'il y a un Christ bénissant au centre. Hein. C'est des sculptures qui ont été largement... Ou la Vierge, je ne sais plus. Des sculptures qui ont été largement reprises à l'époque du Vieux, comme vous le savez. Vous savez ce que c'est, ça ?
Oui, c'est pas les rois.
Les rois, mais quels rois ?
L'Ancien.
Voilà. C'est les rois de l'Ancien Testament. Effectivement, hein, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle la galerie des rois. Hein. On trouvera ça d'ailleurs en plusieurs cathédrales. Et ce sont les rois de l'Ancien Testament. C'est important de le préciser parce que vous savez qu'à la Révolution française, on a éliminé beaucoup des sculptures de Notre-Dame de Paris, et en particulier les rois de la galerie des rois, parce qu'on pensait que c'était les rois de France, en fait. Hein. Et vous savez d'ailleurs que ces rois, on en trouvait toute une série de fragments, notamment de têtes, hein, un peu par hasard, dans les années 70, en allant creuser et faire des travaux dans la cour de la Banque du Commerce Extérieur, d'ailleurs, à Paris. On a retrouvé ce qu'on appelle une favissa. Hein. Favissa, on en a parlé quand on a évoqué la sculpture grecque il y a... C'était cette année ou l'année précédente ? Vous savez, quand on a parlé du Parthénon et de l'Acropole, je vous ai parlé de la Perse-Urchoute, de la fosse des Perses. Hein. Oui. Et je vous avais dit qu'après le pillage de l'Acropole par les Perses, les sculptures qui avaient été brisées par eux ont été rassemblées d'Antiquité même, hein, au 5e siècle, dans une fosse dans laquelle on a mis les débris de statues. Ben, c'est un peu la même chose pour les rois de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'à la Révolution, ces sculptures ont été tirées depuis le bas par terre, elles sont brisées, et des gens, on ne sait pas qui, ont récupéré des morceaux de ces sculptures et ils les ont mis dans une favissa. Et puis personne n'en a entendu parler. Dans les années 70, en faisant des travaux dans la cour de la Banque du Commerce Extérieur à Paris, on a retrouvé cette favissa, on a retrouvé des quantités de fragments des rois de Notre-Dame qui sont maintenant exposés au musée de Cluny à Paris. Donc c'est une découverte tout à fait étonnante, hein, parce que vous pensez que ces sculptures étaient perdues corps et bien. Celles que vous voyez là sont celles qui ont été réalisées à l'époque de Viollet-le-Duc, quand il a, en gros au milieu du XIXe siècle, restauré la cathédrale de Paris. Bien, alors on continue notre petit regard sur les cathédrales. Ah oui, nos cathédrales, c'est la cathédrale de tout le monde, hein. Mais on se dit, oh bah oui, on connaît bien, etc. Bah, finalement, quand on regarde, on se dit que vraiment, il faut éduquer notre œil. Hein. C'est pour ça que je voulais commencer cette séance par ça, parce que je trouve que c'est important d'abord de connaître. Si vous ne connaissez pas, on parle sur rien, quoi. Cette cathédrale, d'abord, vous la qualifieriez comment ?
Il faut redescendre.
Tout en longueur et une porte gigantesque.
Tout en longueur, bah, vraiment, c'est
en hauteur.
En hauteur, voilà, elle est très très haute. La façade est très très, très haute. Il y a un grand portail, oui, effectivement.
On redescend là.
Alors, ça, c'est pas une porte. Hein.
Non, on redescend.
Ça, c'est une fenêtre qui est au-dessus de la porte.
C'est des vitraux.
Mais oui. Ce sont des vitraux, une sorte de grande baie. Hein. Parce que, en fait, cette cathédrale est sur une hauteur. Là, elle a été prise depuis un escalier qui monte et là. Là, on est, j'irais, sur la terrasse où a été construite la cathédrale. Pardon ?
Non.
Ça fait penser à la cathédrale du Puy, c'est pas celle du Puy.
Oh non.
Pardon ?
Non.
Qu'est-ce qui la caractériserait autrement en termes d'époque ?
Mais alors, le centre...
Curieux, oui.
Elle n'est pas comme les... cette tour intermédiaire, cette...
Ouais.
Entre les deux flèches.
On sent qu'il y a eu un truc, paf, qui a été intégré là.
C'est-à-dire
que vous le voyez, hein, on a là une partie qui manifestement, et d'ailleurs ça aussi, hein, et ça aussi est plus ancienne. Par contre, on a un élément là, mais aussi ce lanternon, et peut-être en partie des tours, encore que celle-là a l'air ancienne. Hein, en tout cas, on sent que là, au milieu, on a... à une époque plus tardive, laquelle d'ailleurs, on a rajouté ces deux éléments-là. Hein. Notez d'ailleurs que les deux clochers-là ont été largement repris après, c'est-à-dire au XIXe siècle. Hein. Ça, à votre avis, ce lanternon, mais également cette galerie, qui n'est pas une galerie des rois, mais qui ressemble, ça a été ajouté quand ? Oui, c'est ça. C'est à la Renaissance, au XVIe siècle. Hein. Pas d'idées sur le lieu ?
Non.
Une ville célèbre pour d'autres raisons.
Angers.
C'est Angers. C'est la cathédrale Saint-Maurice. Vous savez que Saint-Maurice, c'est ce saint mort dont on a parlé. Hein. Oui. On a déjà parlé, je crois, avec vous de Saint-Maurice d'Agone, hein, en Suisse. Hein, le lieu éponyme, entre guillemets. Hein. Eh bien, on a au XVIe siècle fait une galerie des compagnons de Saint-Maurice, qui sont donc cette série de personnages que vous voyez là. Hein. Cathédrale d'Angers, qui est un peu particulière, effectivement. Ah, si, ça c'est Strasbourg. Ça c'est pas compliqué, c'est Strasbourg. Cathédrale très très impressionnante, hein, très très étonnante, très curieuse. Hein. L'origine remonte loin, hein, mais on a mis du temps pour la construire. Hein. On a
joué des attaches.
Oui, elle n'est pas vraiment finie, effectivement. Hein. Car Strasbourg, et puis la pierre est très très spéciale. Ça c'est Reims. Hein. Ça c'est Reims. Là aussi, vous qualifieriez la cathédrale de Reims. De quelle manière ?
Elle est homogène.
Voilà, effectivement, une grande homogénéité. Et puis, quoi d'autre, peut-être ? Pardon ?
Gothique.
Très gothique. Pourquoi ?
Les flèches ?
Il y a des flèches ?
Non, les dentelures,
le portail. Le portail pointu.
Les portails pointus, oui.
Et puis c'est dentelé. Enfin,
pardon.
C'est dentelé, c'est découpé. Il y a des
très découpé, très dentelé, pourrait-on dire, oui. Ouais. Bon.
Ils ont ravalé le bar, pas l'eau.
Oui, bah vous savez que la carrière de Reims a eu des tas de problèmes, notamment durant la Première Guerre. Hein. Vous êtes au courant de tout ça. Donc, elle est extrêmement fragilisée. Elle a donc fait l'objet d'un nombre assez considérable de restaurations. Bon, beaucoup de choses ont été déposées et mises au palais du thé, hein, qui n'est pas très loin. Du thé ou du taux, je ne sais pas si c'est du thé. Du taux ou du thé. Thé, c'est à Menton. Menton, le taux, c'est à Reims, alors. Hein, c'est ça. Parce qu'il y a le palais du thé, vous savez. Hein. Mais encore une fois, je ne sais jamais lequel... Si c'était au taux à Reims, donc c'est le palais du taux, hein, où il y a des tas d'éléments des sculptures en question. Pardon ? Voilà. là aussi, hein, mais vous, le, vous, vous l'avez bien dit, hein, c'est une carrière qui est assez homogène parce qu'elle a été construite justement de manière très homogène. On ne l'a pas construite sur des siècles. Hein. Vous le voyez, c'est un chantier relativement rapide.
Périgueux.
Périgueux, oui. Périgueux. Alors là, on est quand ? C'est quoi ?
C'est curieux.
C'est Byzance.
Oui, c'est Byzance. Oui,
c'est
vrai.
Oui. C'est du roman Point de Vin, oui. Effectivement. Hein. C'est un type d'architecture romane très, très particulier. Avec quoi en particulier de particulier ?
Tout en coupole.
Voilà, c'est les coupoles. Hein. Les coupoles, c'est effectivement une singularité. Alors, il y a une autre singularité à la cathédrale de Périgueux. Qui, je crois, se sent assez, là. Hein. Pardon. Alors, c'est vrai qu'elle a un plan très, très spécial. Hein. Très, d'ailleurs, oui, et puis bah, qui est dû aussi à cette singularité des coupoles. Hein. Voilà. Oui, vous vouliez dire ?
Au sol, elle a un plan de croix latine.
Oui, c'est ça, grosso modo, oui. Oui. Alors, je n'ai pas mis des plans de toutes les cathédrales, parce que ça aurait été compliqué.
Pas de croix latine ? Pas de croix latine.
Non, pas de croix latine. Je crois qu'elle est de croix grecque, vous savez, avec les croix voilà, relativement. Hein. Mais il y a aussi autre chose.
Il y a cette tour-lanterne, en gros, au milieu, là, qui est bizarre.
On descend à l'intérieur quand on rentre, non ?
Il me semble, la cathédrale de Périgueux, oui.
Je ne sais plus.
Au niveau de ça, de la date de sa construction. Oui. Donc c'est plutôt très roman, mais il y a autre chose quand même. C'est qu'elle a été extrêmement restaurée. Ce que vous voyez là est plutôt du 19e en fait. C'est-à-dire que cette cathédrale était dans très 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 mauvais état. Les coupoles en particulier, ou du moins certaines d'entre elles, étaient en tellement mauvais état qu'on les a même carrément détruites au 19e, alors qu'elles venaient d'être classées au monument historique, parce que tout s'écroulait. Et donc ça a été reconstruit par un architecte, vous connaissez son nom. Si on parle du coup 19e, il y en a un autre qui est beaucoup illustré, notamment là, à Périgueux. C'est Abadi. Ça vous dit quelque chose, ça, hein ? Abadi est un architecte qui a, au 19e siècle, hein, qui a vraiment, on pourrait presque dire, reconstruit la cathédrale de Périgueux. Hein. C'est vraiment un monument qui date autant de la deuxième moitié du 19e que du Moyen-Âge. Hein. Effectivement, cette gare-là a été construite. Sa construction remonte au XIe siècle. C'est vraiment un monument dont l'origine est très très ancienne.
Mais pas très loin, sans être cathédrale, il y a une autre église à coupole à Périgueux qui est très belle.
Oui, et qui
plus authentique.
Voilà, hein, que la cathédrale qui elle est décidément très revue. Ça ressemble à Reims, oui. Ah, c'est pas Reims, on l'a déjà vu. Chartres ?
Non.
Tours ? Oh, c'est peut-être en France la cathédrale des cathédrales. Amiens. C'est Amiens. C'est vraiment la cathédrale la plus... entre guillemets, parfaite, hein, avec Reims. Voilà. En tout cas, c'est la plus vaste, vous le savez. Hein. La cathédrale d'Amiens, c'est pas la plus haute. Hein. La plus haute, vous savez laquelle c'est ?
C'est Beauvais.
Hein. Alors, le Beauvais, c'est la plus haute.
Oui, mais...
Ah, mais pas la partie la plus haute. Enfin, je veux dire que ce qui reste, reste malgré tout le plus haut. Oui. Hein. Mais c'est vrai que beaucoup de parties de Beauvais sont effondrées. D'ailleurs, ce qui tient grâce à du chafondard. Enfin, Beauvais, c'est compliqué. Hein. Mais la cathédrale la plus vaste dans son volume intérieur, c'est Amiens. La cathédrale de Paris tiendrait dans la cathédrale d'Amiens. Hein. Elle est vraiment... Ça n'a rien à voir. Elle n'en a pas l'air, d'ailleurs. Et pour quelle raison, justement ? Oui, elle est lancée et toujours à cause de cet équilibre, oui, qu'on a vu tout à l'heure à Reims, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on a là une cathédrale qui, elle aussi, a été construite finalement assez vite. Hein. Donc on a, puisqu'il y a un programme qui a été mené en gros de bout en bout, si vous voulez, censé filocher pendant des millénaires, on a quelque chose qui finalement se tient assez. Elle cache bien son jeu, hein, parce que ça, c'est la façade. Quand vous la voyez, vous dites, bon, ben d'accord, on va pas faire oublier revenir là-dessus, hein, c'est une petite cathédrale. Hein. À côté du roman, tout à l'heure, on se dit, franchement, là, on est... Mais c'est immense derrière. La cathédrale d'Amiens, elle est énorme, elle n'en finit plus, si je veux dire. Hein. Elle est extrêmement longue. Hein. Et la façade cache, finalement, bien son jeu d'une cathédrale vraiment très vaste. Hein. Là aussi, au niveau de cette façade, qu'est-ce que vous auriez à dire ?
presque totalement symétrique.
Presque, oui, à part les tours, mais...
Et encore, il n'y a pas grand-chose d'asymétrique.
Qu'est-ce qu'on retrouve, d'ailleurs ? La Galerie des Rois, qui est vraiment un peu un leitmotiv qu'on trouve volontiers dans ces cathédrales gothiques. Notez d'ailleurs que là aussi, Viollet-le-Duc a un petit peu sévi, mais assez doucement. Hein. C'est lui, par exemple, qui a rajouté carrément la galerie qui est là. Hein. Alors on pense que peut-être il y avait quelque chose là, mais enfin, lui, il a carrément reconstruit. Hein. Voilà. Vous savez que Viollet-le-Duc, comme d'autres, au XIXe siècle, ont eu, par rapport à ces monuments, non pas du tout une attitude archéologique comme aujourd'hui, c'est-à-dire disant, ben, je reconstruis parce que j'ai des éléments, etc. Non, l'attitude juridique, comme de Abadi, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était en fait de se mettre dans la posture d'un architecte au Moyen-Âge. Hein. Parce que les civils les ducs avaient construit la façade, lui, les ducs, il aurait mis une galerie là-haut. Donc il l'a mise. Parce qu'il s'est mis dans la posture de l'architecte. Le but, c'était pas, tiens, il y a une galerie qui a été détruite, je vais la remettre, puisqu'elle existait. Non, c'est que lui, Viollet-le-Duc, aurait mis une galerie au-dessus de la cathédrale. Pour lui, c'était une évidence, dans son tropisme médiéval. Donc, il l'a mise.
Voilà. Mais c'est pas le traité de Bologne.
Non, le traité de Bologne n'était pas vraiment encore l'actualité. Hein. Cathédrale, le cathédrale d'Amiens, vous voyez, comme Reims, hein, on est là devant une construction assez... Alors, encore une fois, il y a eu des éléments construits plus tard, je pense notamment aux chapelles latérales, mais quand même.
Poitiers.
Non. Non, on va voir. Peut-être d'un coup.
Une bourge.
C'est pas très loin d'ici. Autun.
Oh non, 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 pas du tout. Non. Mais c'est cette pendule qui me.
Nevers.
Auxerre.
La cathédrale que là aussi vous qualifieriez de quoi? Vous la, je sais pas, vous diriez quoi sur cette façade?
Elle est massive, c'est pas élancé.
Oui, c'est pas élancé, c'est vrai. Est-ce que ça peut donner une petite idée d'époque d'ailleurs, peut-être?
Beaucoup moins de décoration que dans les autres.
Moins, elle est moins décorée que les autres, ça c'est vrai, hein. C'est vrai. Alors, la Révolution n'a pas arrangé les choses, notamment dans les pieds droits, là, hein, des portails. Hein, tout ça a été largement évacué.
Besançon.
Ah, Besançon? Alors, je vous dis quoi?
Non,
mais si c'est vrai.
Ah, c'est ça.
C'est la
grande moi aussi.
Eh bien,
alors. Pour autant, oui, c'est bien de faire des petites révisions comme ça, hein, parce qu'on se remet les monuments en tête. C'est vraiment quelque chose. C'est la cathédrale de Lyon, c'est le collège de Saint-Jean.
Je me souvenais absolument pas de cette pendule.
Et en fait, cette façade a été largement, notamment toute la partie supérieure, reprise assez tardivement, hein, au XIVe et XVe siècle. Donc vous avez là quelque chose qui, vraiment, si vous voulez, est plus tardif que les grandes cathédrales classiques que nous avons vues tout à l'heure. D'accord ? Lyon. Hein. Je vous ai bien eu, là.
Hein. Oui, vraiment bien.
Et c'est peut-être pas fini. Pas mal, hein ? Élégante. Carrée, mais un peu lancée quand même. Très blanche.
Mais blanche récemment.
Oui, tout ça a été...
Très, très
vous
récemment.
Vous voyez en parenthèse que beaucoup de ces cathédrales ont fait l'objet de travaux de restauration ces temps dernier. Hein.
Alors, ça ne sera pas Saint-Denis.
Saint-Denis.
Qui a été restauré très, très récemment.
Saint-Denis a été restauré récemment. On part sur Saint-Denis ou vous avez d'autres idées?
Non, Saint-Denis, c'est pas mal.
Saint-Denis, c'est pas mal. Sauf que...
Ça fait un peu fusée, les quatre fusées.
Un peu fusée, oui, on peut y voir des fusées.
C'est vrai.
Mais ça n'est pas la cathédrale de... Comment s'appelle le lieu où on lance des fusées? Enfin bon, c'est pas des fusées. Alors, vous donnez votre langue au chat?
Ah bah oui.
C'est Nantes. Non. Alors, c'est intéressant là aussi parce que c'est une cathédrale plutôt assez tardive, hein, en termes de la façade. Oui, oui, oui. Alors, c'est pareil, elle a été. Les chantiers ont été arrêtés, ça a été très complété plus tard.
Parce que...
Voilà. Oui, mais c'est une cathédrale pas très connue, en fait, hein, mais très intéressante.
On y habitait un an.
C'est Chartres.
Ça, c'est Chartres. Hein. Ouais. Là, bon, c'est un des grands classiques. Hein. Voilà. Voilà, on est effectivement... Alors, justement, sur cette façade-là, vous auriez à dire quoi ? Plus dépouillé, ouais.
Mais très élancé.
Très élancé. Les clochers ne sont pas là pour rien. Enfin, il y a deux tours. Hein. Ouais.
Les portails sont petits.
Pardon ?
Les portails sont petits.
Oui, c'est vrai. Les portails, en effet, tiennent une place qui n'est pas aussi forte hein, que dans les exemples précédents. Oui. Cette façade, vous dateriez ça de quand ?
La base des tours est nettement plus ancienne.
Mm-hmm. Donc on serait assez tôt. Hein,
oui.
Hein, avec peut-être une partie supérieure un peu
plus tardive. Oui.
Oui, oui, c'est effectivement ça. Hein. Chartres, donc, hein, très célèbre.
Oui, fin du
voilà. Donc, les parties inférieures sont effectivement du XIIe siècle, les parties supérieures un peu plus tardives. Hein. Très bien. Le puits ?
Non. C'est du côté de la Saint-Onge.
Du côté de la Saint-Onge ?
C'est pas Poitiers, ça ?
Poitiers ?
Ah, il y a une cathédrale Poitiers qui est ancienne.
Vous disiez, oui. Vous disiez quoi, peut-être ?
Poitiers.
Non, il me semble que vous disiez quelque chose à propos de ce qu'on voyait de cette cathédrale.
Ah oui, une coupole.
Ah, une coupole derrière,
oui.
Qui nous rappelle
Périgueux.
Et qui a l'air d'être très large.
Oui. Qui est assez large.
Puisqu'on la voit d'ici.
Et cette cathédrale, elle vous dit quoi sur le plan de son époque, de sa période ?
C'est
plutôt effectivement très roman. Hein. Vous voyez vraiment une grosse, grosse différence entre les grandes cathédrales gothiques classiques. Hein. Pensez à Amiens, à Reims. Là, on a évidemment quelque chose de très, très, très différent. Hein. Pas d'idée de lieu ? C'est Angoulême. Fin d'Angoulême. Alors, là aussi, c'est passé la même chose qu'à Périgueux, c'est-à-dire très, très, très reprise, hein, extrêmement reprise. Cette carrière était là aussi en très mauvais état. Et Abadi, le même, a resévi là. Je crois d'ailleurs qu'il a commencé par Angoulême et qu'il a fait Périgueux après, si ma mémoire est bonne. Voilà, ce qui fait ce que vous avez là est très, très largement repris. Alors, au musée d'Angoulême, il y a un certain nombre d'éléments sculptés qui viennent de la façade, etc. Mais ça a été très, très revu. D'ailleurs, vous le sentez, hein, on a quand même là hein, des choses un peu sèches, si j'ose dire, hein, dont on sent bien, et puis sur les côtés aussi. La coupole aussi a été entièrement vue. Hein. Je crois qu'il est même un peu discuté de savoir s'il y avait une coupole au Moyen-Âge ou pas. Enfin bref, ça a été vraiment extrêmement, extrêmement revu. La cathédrale d'Angoulême, décidément, est très abadienne.
C'est vraiment remanié.
Remanié ?
Oui.
C'est pas mal de fusées.
Il y a beaucoup de fusées. Hein.
Il y a beaucoup de fusées.
Cap Canaveral, la camion se tenir.
Il y a même une tour qui a été détruite par rapport à l'autre, qui est bien plus petite.
Oh, elle est reconnaissable à un détail. Enfin, un détail. Elle est reconnaissable à quelque chose, ce qui vraiment la caractérise. Hein. C'est Bourges. C'est Bourges. Bourges a une singularité, c'est qu'il n'y a pas trois portails, il y en a cinq.
Oui, oui. Hein.
C'est une galerie 13 en largeur. Hein. Vraiment, c'est une galerie qui se déploie. Oui, oui, oui. Bourges, c'est Bourges. C'est ce qui permet de la reconnaître entre toutes. Hein. Voilà. Grâce à Saint-Étienne.
Orléans ?
Non, elle est belle celle-là.
Oh,
elle est travaillée.
Tour. Ah oui. Pardon ? Tours. C'est la cathédrale de Tours. Hein ? Et alors celle-là, qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Un gâteau.
Un gâteau.
Ah ouais, elle est
super
travaillée. Ça dépend comment elle était prise, la photo.
Oh ben, il y a une déformation, bien sûr. Hein, oui, oui. Oui,
plus
oui.
Que dans les autres.
Ben oui, ça dépend des appareils qu'on a. Voilà, hein, oui, vous avez raison. Alors là, on est dans une architecture très gothique. Hein, mais voilà, un gothique tardif. Hein, ce qu'on appelle souvent, terminologie pour ce qu'elle vaut, du gothique flamboyant. C'est-à-dire un gothique vraiment tardif. Hein, voilà, de Tours. Voilà. était là. La façade a été terminée au XVIe siècle. Hein, donc c'est... Saint-Gatien. Non, ça c'est la façade d'une cathédrale. Ben, elle n'a qu'une tour. Il est évidemment projeté qu'on en ait une deuxième. Mais enfin, vous savez, quelquefois, entre les tours qui s'écroulent et les tours qu'on n'a pas le, les moyens de finir, quelquefois les cathédrales se trouvent un peu...
Il y a une maison médiévale devant.
Ah oui, ça, c'est souvent le cas.
Rennes.
Rennes ?
Non, c'est avec la maison médiévale.
Auxerre. C'est vrai que ça ressemble pas mal à Auxerre, mais c'est pas Auxerre. Auxerre, elle est un peu comme ça, elle a aussi une tour en moins. Hein. Parce que si je ne m'abuse, elle... C'est Troyes. C'est Troyes, bravo. C'est la cathédrale de Troyes. Tu sais, Troyes, il y a plein de choses et on pense pas seulement à la cathédrale, mais c'est la cathédrale de Troyes. Là aussi, la façade a été réalisée tardivement. Hein.
Ça, c'est Orléans.
Ça, c'est Orléans. Ça, c'est Orléans. Quelle est la caractéristique de cette cathédrale, d'ailleurs ?
Au sommet des tours.
Oui, le sommet des tours, vous avez vu, hein ?
Oui,
ouais.
De la dentelle, là-haut.
Oui, c'est de la vraiment de la dentelle. Hein. Mm. Quelle est sa caractéristique, cette étrange cathédrale ? Oui, alors c'est vrai que la pierre a une couleur très spéciale. C'est la pierre de la région de la Vallée de la Loire. Hein. Enfin, cette partie de la Vallée de la Loire. Hein.
Elle est faite en deux parties. Le bas est bien carré et les deux autres, on les rajoutés. Les deux tours, on les rajoutés.
Alors, oui. Oh, pourtant, cette façade a été faite relativement d'un seul tenant. Je dis bien relativement. Pour une raison simple, d'ailleurs, laquelle ? Vous dateriez ça de quand, d'ailleurs ?
13e.
Ou plus. 13, 14.
Il y a 5 portails. Aussi.
Oui, il y a 5 portails. On est un peu comme à Bourges, sauf que là, les portails sont...
3 rosaces en façade.
Ouais. Ouais. 3 rosaces. 3 rosaces en façade.
C'est la première fois qu'on en voit 3 rosaces.
Oui. Ouais. Donc, 13e siècle, peut-être un petit peu plus tardif.
Oui.
Un petit 14e, quoi. Hein, 13, 14e. En fait, c'est beaucoup plus tardif. Ce que vous avez là, date largement des 18, 19e siècle. C'est-à-dire que, en fait, cette cathédrale, la cathédrale d'Orléans avait quasiment entièrement disparu et brûlé. Ce qui fait que, dès le début du 17e siècle, on a décidé de la reconstruire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a reconstruit dès le XVIIe siècle, et puis au XVIIIe siècle, dans le goût gothique, si vous voulez. Donc c'est une cathédrale néo-gothique, mais des XVIIe siècle. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et elle a été terminée au début du XIXe siècle, par un architecte qui s'appelait Pierre-Adrien Paris, d'ailleurs. Et les tours sont effectivement des éléments, notamment la partie ajourée est très curieuse. Hein. Très Charles X, si vous voulez. Hein. Hein. Vous avez une cathédrale néo-gothique, mais pas du néo-gothique comme à Chalon, du néo-gothique du début du 19e, vous savez que la cathédrale de Chalon est très intéressante parce que la façade néo-gothique de Chalon est une des premières façades néo-gothiques de France, mais néo-gothique du 19e siècle. Hein. Et elle est antérieure à Viollet-le-Duc, celle de Chalon. Ça, c'est très très intéressant, rare d'ailleurs. Hein. Mais Orléans, c'est encore plus fort, si vous voulez. Orléans, c'est carrément de l'Ancien Régime. Hein. C'est-à-dire qu'on a voulu, à Orléans, reconstruire une cathédrale néo-gothique à une époque 17-18e où le gothique n'était plus du tout à la mode. Hein.
Et oui.
Voilà, on est donc très très surpris de voir ce chantier-là d'une cathédrale néo-gothique en plein siècle du Grand Roi et du 18e siècle. Hein.
Oula, une nef.
Pardon ?
Beauvais.
Oui. Oui.
Non, il manque quelque chose.
Oui, on sent que c'est un peu bizarre, il manque des trucs là.
Hein. Oui, oui.
Ouais. Elle est curieuse. Qu'est-ce qu'elle vous inspire autrement, cette cathédrale ? Au niveau même de la pierre, d'ailleurs. Tout à l'heure, vous étiez surpris. Oui, la couleur de la pierre. Ça vous dit des choses, ça ? Alors, c'est pas que la photo. Elle est très jaune. Pardon ?
C'est
Metz. Bravo. C'est Metz. Hein. Vous savez, le Metz est très jaune. Hein. C'est la pierre de Norrois. Hein. Et qui est une Norrois et Pont-à-Mousson, qui est une pierre très, très, très jaune. Hein. Voilà. Alors, cette cathédrale a aussi une singularité.
Le portail.
Ben voilà, elle est franco-allemande. C'est-à-dire, c'est une galerie qui a été largement construite, reconstruite, re-revue et re-revue encore, hein, au XIXe siècle. Donc, elle a des éléments médiévaux et anciens, effectivement, et gothiques, mais jusqu'au début du XXe siècle, on a cessé de la revoir. La façade est largement XIXe.
C'est pas Toulouse, ça ?
Toulouse ?
Il y a une tour
silence profond.
Il y a une tour qui est détachée de l'ensemble, là à gauche.
En fait, elle n'est pas vraiment détachée. Comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs une tour détachée ? Parce que ça arrive quelquefois, un campanile. Hein. C'est pas un campanile. C'est, ça tient au reste. Hein. C'est, oui, c'est d'un seul tenant.
Non, mais c'est la photo qui. L'autre doit être à peu près symétrique.
Oui, oui, à peu près. Ben, vous parliez de Poitiers tout à l'heure. C'est la cathédrale de Poitiers. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette cathédrale-là ?
Ça se rapproche du
chemin. Avant d'essayer de reconnaître d'où elle vient, si j'ose dire, ou la carte. Pardon ? Ah, ben peut-être.
Je ne sais pas, à cause du toit.
Oh, les toits vernissés. C'est que ces toits-là, on les trouvait au Moyen-Âge et encore aujourd'hui partout en France. Hein. On croit que c'est quelque chose de bourguignon parce qu'il y a des hospices de Beaune. Mais je vous rappelle que les toits des hospices de Beaune datent du XXe siècle. Hein. N'allons pas croire que les toits des hospices de Beaune sont médiévaux. Ils datent du XXe siècle. Hein. Donc, on nous fait croire, on nous vend le fait que la tuile vernissée, c'est complètement bourguignon, pas du tout bourguignon. Ça se trouvait partout en France, et même partout dans l'ouest d'Europe occidentale. Bon, il se trouve que la Bourgogne, avec les toits de Beaune, qui datent du XXe siècle, et les toits de la Rochefort, dont le château... Et alors, Loire, oui. Mais la Rochefort est super connue, mais le château de la Rochefort a été construit, lui, vous le savez, jusqu'au début du XXe siècle aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a cette vision bourguignonne, mais en fait, elle est très fausse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des toits comme ça au Moyen-Âge, hein, et notamment à Beaune. À Beaune, il y avait des toits en tuiles glacurées hein, sur les hospices. Hein. Mais les toits qu'on voit aujourd'hui sont des toits tout à fait tardifs, hein, souvent très recomposés. Donc, hélas, ce n'est pas un critère. Mais la cathédrale elle-même, qu'est-ce que vous en diriez, cette cathédrale, cette façade ?
Il n'y a plus de rosaces.
Pas de rosaces, ok. Pardon, un peu fortifié.
Oui,
vous jouez. Pardon.
Non, je disais c'était la précédente qui était plus
fortifiée. La précédente avait un côté assez fort, oui. Vous la dateriez de quand, celle-là ?
13e.
1300, plutôt 14e alors ? Tardive ? Un bon 13e bien avancé. 13e bien avancé. Hein. Et alors, on est où ? Bon, peut-être en Bourgogne, mais peut-être
pas. Nevers.
Nevers. On est devant une cathédrale très importante, qui est d'ailleurs cette cathédrale, peut-être, un des prototypes de la cathédrale gothique en France. Ouais.
Auxerre ?
Pas Auxerre. Mais c'est pas loin.
Sens ?
Sens. C'est la cathédrale de Sens. La cathédrale de Sens, elle est capitale. C'est une des premières cathédrales, j'allais dire gothiques, j'allais presque dire fières de l'être, hein, en France. Au Sens, c'est vraiment très très important. C'est vraiment un des éléments premiers du bourgeonnement du gothique en France. Vous voyez, ça a été commencé très tôt, hein, en 135. Voilà. Et c'est pas fini. On a beaucoup, hein. Et encore, je ne les ai pas toutes mises, hein. Loin de là. Hein. Mais je trouvais important de commencer ce cours, enfin cette séance, cet atelier par ça, parce que finalement, les cathédrales, c'est toujours des gros monuments comme ça. Bon, alors on a une espèce de vague vue en tête, et finalement, on a du mal à les singulariser chacune. Donc, je me suis dit que c'était important de commencer par déjà les regarder, puis d'apprivoiser un peu ce matériau énorme que sont les cathédrales en France. Donc, ouais, finalement, c'est pas si simple. Hein.
Là, il y a un nouveau
portail, voilà. Le trois portails. Au-dessus, il y a la rosace. Hein, voilà une cathédrale finalement assez classique. Hein, voilà. On est à quelle époque, là, à votre avis, d'ailleurs ?
13e.
13e, hein, sans doute. Hein. Sens, c'était plus tôt, je vous le rappelle. Hein. Enfin, il y a des éléments du 13e à Sens. Mais Sens, ça commençait plus tôt. Là, on est dans une cathédrale, en tout cas, dont le résultat final avec la façade, c'est la cathédrale de Soissons. Picardie. C'est que la Picardie était avec le bassin parisien un des lieux, et Sens est dans le bassin parisien, bien sûr, hein, un des lieux d'élaboration du gothique en France. Hein. C'est vraiment là que les choses, avec la Normandie d'ailleurs, que les choses se sont passées. Hein. Bassin parisien, Picardie, Normandie, on est là dans le triangle des Bermudes de l'émergence du gothique en France. Hein. Je crois que c'est la dernière sur laquelle je vous fais souffrir. Hein. Pardon ? Ça, c'est Auxerre. Ça, c'est la cathédrale d'Auxerre, hein, avec sa tour unique. Hein, voilà. Bon, cathédrale là aussi très intéressante, qui fait encore l'objet de travaux, parce qu'elle était dans un état épouvantable. Voilà, cathédrale 13e, mais avec beaucoup d'éléments postérieurs. La tour de gauche, vous voyez, est postérieure. La cathédrale d'Auxerre, hein, avec un parking devant. Bravo. D'Auxerre, c'est toujours contre-fichu de son patrimoine. Oui, oh ben, lui encore, mais alors après, mon Dieu. Enfin, c'est comme ça. Dommage, c'est une vie extraordinaire, hein, mais vraiment. Bien, voilà, donc je voulais qu'on commence cette séance par ça, par regarder plein de cathédrales, parce que je trouve que si on parle d'art gothique sans savoir de quoi on parle, ben, c'est embêtant. Et finalement, en regardant ces façades, au fur et à mesure, on s'habitue à voir des choses, à voir des différences, à comprendre comment ça se passe, à situer des éléments les uns par rapport aux autres. Et je voudrais maintenant qu'on aborde un autre très court chapitre, pour un peu s'entendre sur les questions de vocabulaire en termes de plan et d'élévation. Hein. Essayez simplement de voir, on a vu la toute série de façades, bon, on va revenir un peu sur des caractéristiques du gothique et du roman, mais je voudrais maintenant simplement qu'à partir d'une cathédrale qui est, encore une fois, une des cathédrales les plus, parfaites, idéales, la cathédrale d'Amiens, je voudrais qu'on voit un peu ce que c'est que le plan d'une cathédrale et comment fonctionne l'élévation. Parce que, après, c'est la variation sur un genre, si vous voulez. Amiens, c'est un peu la cathédrale parfaite. Une fois qu'on a ce genre de plan en tête, on voit après ce qui est différent, ce qui est autre chose, et comment on s'écarte, en quelque sorte, de ça. On a fait un peu la même chose pour l'architecture grecque. Hein. On est parti d'Égine, hein, qui est the temple grec, n'est-ce pas, hein. Ben là, c'est un peu pareil. La cathédrale française, ça peut être Reims, ça peut être Amiens. J'ai choisi Amiens parce que j'ai un tropisme pour ma part. Voilà, ça c'est le plan de la cathédrale d'Amiens. Vous décririez ce plan comment ? Quels sont les termes que vous utiliseriez ? Parce que il faut qu'on ait un vocabulaire commun, hein, et puis scientifique, je dirais, pour évoquer cette cathédrale. D'abord, ce plan, pour le situer, vous diriez quoi d'abord ? Alors, on pourrait dire que c'est une cathédrale en croix, latine, là, en l'occurrence. Pardon ? Ah bah ça veut dire qu'il y a un transept. Commençons peut-être justement par dire les mots, parce que transept court, oui, c'est vrai. Mais court d'ailleurs pour une raison. Et puis peut-être on va justement essayer de voir, de qualifier les différentes parties. D'abord, elle est axée comment ?
Est-ouest.
Voilà, c'est-à-dire que le cœur est à l'est. Hein. Ça, vous savez que c'est à peu près une constante. Je dis bien à peu près. Hein. Il y a des cathédrales qui ne sont pas du tout axées à l'est. Hein. Ne serait-ce que la cathédrale Saint-Lazare d'Autun. Hein. Seulement, si quelquefois, vous n'aviez pas la place, alors on se débrouillait avec la place qu'il y avait. Hein. Donc, quelquefois, la cathédrale d'Autun est axée au sud. Alors, sûrement. Surtout que le gros problème à Autun, vous savez qu'à Autun, il y avait deux cathédrales dans la ville d'Autun. Il y avait la cathédrale Saint-Nazaire, qui était bien axée à l'est. Hein. Et puis, on a construit plus tard la cathédrale Saint-Lazare, hein, à côté de Saint-Nazaire. Et puisqu'il n'y avait pas de place, ben, on l'a construit là où on a pu, quoi. Sauf qu'entre-temps, après le Moyen-Âge, la cathédrale Saint-Nazaire a été en partie détruite. Il en reste quelques restes, mais pas grand-chose, quelques vestiges. Mais là, c'est la cathédrale Saint-Lazare, qui est axée au sud. Voilà. À Besançon, il y avait deux cathédrales aussi. Hein.
Il y avait une raison pour que ce soit d'est en ouest.
Oui. Alors, oui, bah, à votre avis, laquelle?
Le soleil levant.
Alors, pas simplement le soleil levant. Hein. Le soleil, il se lève quelque part. Mais... Alors voilà, voilà, c'est parce que ça regarde, ça regarde Jérusalem. Hein. Et donc, c'est axé à l'est pour aller en direction de la Terre.
C'est orienté.
Voilà, c'est orienté. Orienté, ça regarde l'Orient. Hein. Alors, cette cathédrale, donc, qui est orientée à l'est, comme de juste, si j'ose dire, donc elle est composée de quoi? Si, de manière un peu systématique, sans commencer par le milieu, mais peut-être en commençant par un côté, hein, comment est-ce que vous décririez ces différentes parties pour que le plan pour nous soit clair, hein?
Alors, est-ce qu'on commence par la nef ou est-ce qu'on commence par le cœur?
Moi, je vous propose qu'on commence par là, c'est-à-dire qu'on commence
par le portail. Hein,
portail. Donc vous avez effectivement là, comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs en général cette partie dans ces grosses églises, dans ces cathédrales qui se trouvent... Pardon?
Le nord-est.
Alors, oui, quand il y en a, là, il n'y en a pas vraiment.
C'est-à-dire
que là, vous avez...
L'escalier.
Vous avez quoi?
Trois portails.
Vous avez trois portails. Hein. Vous avez un, deux, trois portails, hein, et qui se trouvent donc dans la façade de la cathédrale. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on appelle alors cette façade qui, on l'a vu tout à l'heure, hein, est quand même un gros élément. Hein. Mm-hmm. Pardon? Non. Le péristyle, ce serait... Vous savez, on a évoqué ça plutôt... d'abord, il faut des colonnes hein, dans un péristyle. Hein, hein. Plutôt parler de ça dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors, tout bêtement, cette partie occidentale des cathédrales, on appelle ça le massif occidental. Hein. C'est-à-dire c'est une espèce de gros élément qui bloque la cathédrale au départ, alors qui est souvent sur une élévation importante, hein, qui est assez charnue, d'ailleurs vous le voyez là, hein, vous avez quand même
des piliers énormes.
Voilà, hein, c'est absolument considérable. Hein. Massif occidental, c'est finalement ce contre quoi commence la cathédrale à l'ouest.
Hein. Mais on terminait par...
Alors, souvent, mais pas toujours. Hein, pas toujours. On a tous les cas de figure. On a des cathédrales par lesquelles on a commencé avec le cœur, et puis ça se terminait par là. On a même des cathédrales dans lesquelles on a commencé des deux côtés. Hein. Ce qui, quelquefois, a posé des problèmes. Parce que quand on arrive au milieu, il y a des petits problèmes. Alors, on se débrouillait, voilà. Hein. Il y en a aussi qui ont commencé plutôt par l'ouest. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est plutôt par le cœur que l'on commence, et on va vers le massif occidental.
Et pour assurer le culte dès le départ.
Ça. Absolument, parce que, évidemment, dans les portes, c'est un peu difficile. Hein. Ce qui veut dire d'ailleurs que très souvent, la partie la plus ancienne de ces édifices, c'est justement la partie qui est à l'est. Hein. Parce qu'on terminait un siècle plus tard à l'ouest, et évidemment, on n'avait pas le même style architectural. Hein. Bien, donc on a le massif occidental, fort, hein, sur lequel bute, si j'ose dire, la cathédrale à l'ouest. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on a... régler cette question de massif occidental. On a la nef. Ça, c'est la nef.
Trois nefs.
Alors, on peut dire qu'on a trois nefs, celle-là et les deux nefs latérales. On peut leur donner un autre nom, ces nefs latérales.
Les collatéraux.
On peut appeler ça des collatéraux. Il y a un autre nom, d'ailleurs. Des bas-côtés.
Des bas-côtés.
Hein. Donc, on a une nef avec des bas-côtés. Vous utiliez le mot de travée. C'est quoi une travée?
Non, c'est les successifs.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est une travée. Ça, c'est une travée. Donc là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six
travées.
Hein, d'accord, hein? Voilà, pardon.
Travée,
voilà.
C'est l'inverse.
C'est ça, c'est l'inverse. Hein. Les travées, c'est les éléments qui se trouvent... Voilà, hein, d'accord. Alors,
il y a des contreforts, déjà.
Il y a effectivement des contreforts. Hein. Vous les remarquez là. Hein, des contreforts qui servent à quoi?
À tenir,
à contrebalancer, effectivement. À ne pas qu'elle s'ouvre, effectivement. Hein. Bien, alors nous voilà donc dans notre dernière travée, on arrive ici, et qu'est-ce qui se passe là?
Le transept,
on a
le transept,
les
triples.
Alors ici, effectivement, il y a un transept qu'on pourrait appeler un transept triple. Pourquoi triple?
Mais parce qu'il
y a... de trois travées.
Alors, de trois travées, si on veut, on pourrait dire une travée, deux travées, trois travées. Oui.
Avec une principale.
Avec une principale, un peu comme on avait la nef avec deux collatéraux. Hein. Ouais.
Et la tour-lanterne, probablement.
Alors, disons qu'il y a...
Peut-être une tour-lanterne.
À l'emplacement de ça...
La croisée.
Voilà, ce qu'on appelle la croisée. Hein.
Avec des piliers plus forts.
Plus forts. Hein. En fait, ce qui est assez amusant à Amiens, effectivement, c'est que ce transept... Bon, vous disiez tout à l'heure, avec raison, qu'il n'est pas très développé. Hein. Il est assez... voilà, il est assez dans la masse, on va dire. Hein. Bon, enfin, quand on est dans la cathédrale, ça se voit quand même. Hein. Il a lui-même des collatéraux. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les collatéraux de la nef se poursuivent, si vous voulez, dans le transept. Hein. Ça, c'est assez curieux.
Et puis des portails latéraux.
Et il y a des portails latéraux. Hein. Mais vous avez ça dans pas mal de cathédrales, je pense à Chartres, hein, par exemple. Hein. Mais effectivement, vous avez des portails latéraux. Hein, le portail de Saint-Firmin et le portail de la Vierge Dorée. Hein. Tout à fait. Ensuite.
Le chœur.
Le chœur. Hein. Un chœur assez long, d'ailleurs, hein, à plusieurs travées.
Et l'abside.
Oui, il y a peut-être une manière, parce que le chœur, c'est ça, hein, l'autel est là, bien. Donc voilà le chœur. Mais ce chœur, il est un petit peu spécial. Qu'est-ce qu'il nous montre ?
Mais il est peut-être avec déambulatoire.
Alors il y a ce qu'on appelle un déambulatoire. C'est-à-dire que vous avez le chœur, et autour, l'équivalent du bas-côté de la nef, hein, c'est ce qu'on appelle le déambulatoire. Hein. Donc ça, c'est le déambulatoire. Mais il n'y a pas que ça.
Et les chapelles rayonnantes.
Et il y a ce qu'on appelle les chapelles rayonnantes.
Plus la plus importante, centrale.
Voilà, vous avez toute une série de chapelles rayonnantes, dont une qui est là, qu'on appelle comment d'ailleurs ?
Des absidioles.
Alors, effectivement, chaque chapelle rayonnante, on pourrait dire que c'est une absidiole. Hein. Ouais. Voilà. Mais cette chapelle-là, qui est aussi une absidiole, hein,
oui, mais
sorte, elle a un nom spécial. Oui. Elle est dans l'axe.
Oui, chapelle axiale.
C'est la chapelle axiale. C'est la chapelle axiale. Voilà donc, vous voyez, le plan, finalement, assez simple, hein, c'est pas bien compliqué, hein, de ce genre d'édifice. Hein. Alors après, évidemment, il y a des variations sur le thème. Hein. Vous trouverez des églises dans lesquelles, par exemple, vous avez pas un bas-côté de chaque côté, mais deux, par exemple, hein, deux collatéraux. Hein. Vous trouverez des églises où vous avez un double déambulatoire. Ça existe aussi. Hein. Voilà. Mais c'est important, alors, ce plan-là, parce que ça, c'est le plan schématique de base. Quand on a ça en tête, un peu comme on a le plan d'Égine en tête pour le temple grec, hein, on voit les variations autour d'un thème. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que ça, c'est capital. D'avoir une espèce de base comme ça permet après d'être très libre dans son analyse.
Mais on peut déjà dire que les croisées sont simples. Les croisées d'Égine,
oui,
sont simples.
Absolument. Oui.
Sauf à la croisée centrale du transept.
Sauf à la croisée du transept, où là, ça se complique. Petite chose, vous avez un plan de la cathédrale tel que, en gros, elle se présentait à la fin du XIIIe siècle. Hein. Après, il y a eu des éléments qui ont été ajoutés. Où, à votre avis ? Voilà, entre les contreforts. Entre les contreforts, on a, au fur et à mesure des XIVe, XVe et XVIe siècles, fermé, si vous voulez, les contreforts pour en faire des chapelles. Parce que c'est quand même important, quand vous êtes un bourgeois de la ville d'Amiens au XVe siècle, hein, vous devez faire construire votre chapelle, autrement ça ne le fait pas, si j'ose dire. Hein. Et si vous pouvez le faire à la cathédrale, c'est assez chouette. Hein. Donc dans ces cas-là, ben, vous allez faire boucher, n'est-ce pas, ici, l'entre-contrevoix et créer là, une petite chapelle. Donc en fait, aujourd'hui, mais ça c'est le plan, encore une fois, idéal avant la fin du Moyen-Âge, mais aujourd'hui, entre les contreforts, vous avez des petites chapelles, ce qu'on appelle des chapelles latérales. Et vous en avez même là. Hein.
On accède à ces chapelles par l'extérieur ?
Non, on y accède par l'intérieur.
Par l'intérieur.
Hein, voilà, par l'intérieur. Voilà. OK ? Voilà, donc ça, c'est le plan, encore une fois, un peu idéal de The Cathédrale Médiévale. Voilà l'élévation de la cathédrale d'Amiens. C'est... moi, je trouve ça prodigieux. Hein. C'est vraiment une cathédrale d'une... Bon, c'est, encore une fois, avec Beauvais, c'est la plus haute, hein. Sauf que là, il ne s'est pas écroulé. Hein. Ouais. Beauvais était un peu plus haut, il y a 3 mètres de plus. Pardon ? Et Beauvais n'est pas terminé. De toute façon, dès qu'on finissait, plus ça tombait. Alors, évidemment, on s'est un peu lassé. Hein. Voilà. Là, on a quelque chose vraiment de complet qui a été fait très vite. Hein. Et voilà donc l'intérieur de l'extraordinaire nef d'Amiens.
Ça tient toujours.
C'est... Oui, oui, très bien. Vraiment splendide, je trouve. Voilà. Comment est-ce que vous qualifieriez, comment est-ce que, maintenant qu'on a vu le plan, on va travailler sur l'élévation, hein, parce qu'on a vu comment ça se passait au sol. Maintenant, on va voir comment ça se passe, encore une fois, en partant du bas, en allant vers le haut. Donc, vous avez là une vue de la nef et vous voyez bien l'élévation. Je vous ai mis ça parce que, évidemment, là, on ne voit peut-être pas très bien. Cette photo-là permet de bien comprendre, je crois, quelle est l'élévation. Ce n'est pas très compliqué, d'ailleurs. Hein.
Il y a trois niveaux.
Il y a trois niveaux. Et on appelle ça comment ?
Les grandes arcades.
Les grandes arcades.
L'étage du triforium, mais il n'est pas triforium. Et puis les fenêtres hautes.
Voilà. Hein. Il y a trois niveaux. Il y a effectivement, au rez-de-chaussée, vous les voyez là, les grandes arcades. C'est ce que vous voyez là. Ce qu'on appelle le triforium.
Mais il n'est pas triforium.
Que vous voyez là. Et enfin, les fenêtres hautes, qui est dans la partie supérieure.
Hein. Mais le triforium, en général, c'est à trois.
Alors, oui. D'ailleurs, ce nom de triforium vient de quoi ?
De trois.
Alors, c'est ce que je pensais.
Bah oui.
Eh bien, c'est pas ça.
Ah. Hein,
non. J'aurais dû d'ailleurs le noter, je n'ai pas fait, mais a priori, ça vient d'un mot latin qui veut dire trifoliere, je crois, qui veut dire transpercer. C'est-à-dire le triforium est quelque chose qui transperce, si j'ose dire, cette partie de la cathédrale, si vous voulez, d'un mur à l'autre.
Mais c'est une galerie de circulation.
Voilà, alors c'est une galerie de circulation qui pouvait d'ailleurs avoir un intérêt liturgique. Par exemple,
pour le son, peut-être.
Par exemple, pour le son, on pouvait y mettre des chanteurs. Hein, hein. On pouvait aussi pendre des choses. Hein, des bannières, tout ce que vous voulez. Hein. Donc ce triforium, cette galerie, peut avoir effectivement un intérêt. Hein. Elle a un intérêt, je dirais, architectural, mais elle a aussi un intérêt...
D'allègement.
À Chalon, ils mettent des tas de bougies, maintenant.
Ah, peut-être. Voilà, dans le triforium, oui. Voilà, donc cette élévation, vous voyez, elle n'est pas très très compliquée. Puis au-dessus, vous avez des voûtes que vous qualifieriez de comment ? Très simple. Hein.
Croisées simples.
Des voûtes surcroisées d'ogives, toutes bêtes. Hein. Vous avez deux ogives qui se croisent, des voûtes surcroisées d'ogives. Hein. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Bien. Alors maintenant qu'on a réglé, sans aller trop dans le détail, hein, l'élévation... intérieur. Re-regardons l'élévation extérieure. Qu'est-ce qui peut-être vous frappe dans cette élévation extérieure de la façade de la cathédrale d'Amiens ?
Les niveaux. On peut faire un croisillon.
On peut faire un
quadrillage.
Un quadrillage.
Parce que trois parties verticales, trois parties horizontales.
Ouais. Alors justement, par rapport à ce que vous dites, trois parties verticales, trois parties horizontales, ça veut dire quoi par rapport à l'élévation de l'intérieur qu'on vient de voir ?
Ah ben, on sait où c'est.
Voilà. C'est-à-dire qu'on lit l'intérieur dès l'extérieur.
Oui, oui.
C'est ce qu'on appelle l'élévation harmonique. C'est-à-dire que vous avez une lecture de la cathédrale dès l'extérieur. En fait, vous avez là... Ce qui correspond à quoi ? Alors, d'abord, la nef et les bas-côtés. C'est juste. Et au niveau de l'élévation,
les grandes arcades.
Hein. C'est-à-dire vous avez ce qui correspond à la nef et les bas-côtés, et aux grandes arcades au niveau de l'élévation. Après, vous avez ce qui correspond au triforium. Hein. Et après, vous avez ce qui correspond aux fenêtres hautes, ce qu'on appelle les fenêtres hautes. Hein. Voilà. Donc vous avez en effet une lecture. Alors après, il y a les restes des tours. Hein. Mais vous avez une lecture dès l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est ce qu'on appelle l'élévation... l'élévation harmonique, et qui va, être le leitmotiv dans le gothique classique, pourrait-on dire. Alors, pour terminer, je voulais qu'on aborde un troisième chapitre, et là, je vais vous passer une dizaine, je crois, de photos qui montrent des élévations de monuments gothiques. Hein. Je les ai mélangées, bien sûr. Hein. Donc on va essayer à la fois de regarder à quoi ça ressemble, de remettre ça dans le bon ordre, peut-être de trouver de quel monument il s'agit, hein, et puis de voir à chaque fois, par rapport à ce qu'on vient de voir, notamment concernant l'élévation intérieure, hein, quelles sont les caractéristiques de ces élévations. Hein. D'abord, si on voulait essayer de caractériser un petit peu l'architecture gothique, le mot même vient d'où ?
Bon.
Pardon ?
D'ego.
Hein. Absolument, d'ego. Hein. Et pourquoi d'ego ? Parce que c'est une architecture qui vient d'ego, quoi. C'est l'ego qui est construit comme ça.
C'est un mot tardif.
Pardon ? Donc l'architecture gothique serait une architecture plutôt allemande.
Au départ ?
Non, mais c'est parce qu'on a baptisé gothique tardivement.
On a baptisé gothique tardivement. Pourquoi ?
Mais parce que...
Pardon ?
Par mépris.
Par mépris, hein, absolument. C'est-à-dire que, effectivement, le mot... Vous avez une idée du moment où ce mot gothique est apparu ? Pour qualifier l'architecture. Alors, à l'époque classique et même un petit peu avant, il semble que c'est au XVIe siècle que commence déjà à arriver, il semble que la première apparition, soit au XVIe siècle. Hein. Effectivement, c'est par mépris. C'est-à-dire que le mépris, il fonctionne comment? Pourquoi? Parce que moi, j'ai rien contre l'Allemagne, je trouve ça bien, l'Allemagne. Hein. Et les Gauzes et les Allemands, c'est quelque chose aussi simple que ça. Voilà, c'est ça. Les barbares, par rapport à quoi? Par rapport à la Renaissance? Par rapport à l'Italie? Pourquoi pas? En fait, les Goths, c'est ceux qui ont fait tomber l'Empire romain. Enfin, ils ne sont pas les seuls. Hein. Mais effectivement, les Goths, c'est les barbares, si j'ose dire. Hein. Ils viennent de là, du nord-est, on va dire. Hein. Les Goths, c'est les barbares. Donc, effectivement, qualifier cette architecture dès le XVIe siècle d'architecture gothique, c'était dire que c'était une architecture barbare. Aussi barbare que ces Goths qui ont mis à bas l'Empire romain, qui est pourtant le summum de la civilisation européenne, si vous voulez, hein, avec la culture grecque. Hein. Effectivement, on croyait voir dans cette architecture gothique, notamment avec ce qu'on appelle les gables, vous savez, ces espèces de triangles que l'on voit souvent sur au-dessus des porches dans les cathédrales, on croyait voir une réminiscence des huttes des Goths, vous savez, de cette architecture, n'est-ce pas, gothique. Hein. Et donc, on se disait, ben, l'architecture gothique vient effectivement des Goths, de toute façon, ce sont des barbares. En fait, ça ne vient pas du tout de là, mais en tout cas, l'idée est évidemment de qualifier de manière négative et barbaresque hein, cette architecture qui est bonne pour les barbares qui ont mis à bas l'Empire romain. Hein. Pardon, les parigots. Voilà. Pas mal. Voilà. Donc, effectivement, voilà déjà d'où vient le mot. Qu'est-ce qui fait que petit à petit, on est passé de l'architecture romane à l'architecture gothique? Enfin, à votre avis, d'abord, est-ce que ça s'est fait pouf comme ça? C'est-à-dire qu'en gros, voilà, extrêmement progressivement. Il faut bien comprendre que cette vision qu'on a, nous, qui est qu'on parle du roman ou gothique, c'est une vision que nous avons, nous, mais qui n'existait pas du tout au Moyen-Âge. Hein. De toute façon, ces termes n'existaient pas. Hein. C'est vraiment notre vision des choses. Simplement pour essayer de comprendre, d'analyser ce qui s'est passé. Hein. On parle de gothique, pardon, de roman et de gothique, mais c'est vraiment une vision organisatrice cartésienne, assez française, mais pas que, hein, d'une histoire de l'architecture qui n'a pas du tout été aussi radicale, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en fait, les modifications sont faites petit à petit. On ne s'est pas couché roman un soir pour se réveiller gothique le lendemain. Hein, voilà. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui, quand même, fait qu'un monument est plus gothique que roman, par exemple? Alors, la lumière, effectivement. La grande question, c'est la lumière. Hein. Ça, c'est la grande question.
Les progrès des techniques de construction.
Alors, voilà. Parce que pour trouver de la lumière, il a fallu faire évoluer les techniques de construction. Donc, la découverte de la lumière a généré des évolutions dans les techniques de construction. La lumière, c'est très important. Et puis, il y a peut-être un autre point qui, là aussi, a entraîné l'évolution des techniques de construction, qui est un peu le corollaire de la lumière, d'ailleurs. Hein.
La hauteur.
Oui, voilà. Je dirais même l'espace. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé de lieux qui, quelquefois, n'étaient pas petits, mais qui étaient un peu râblés, j'allais dire un peu confinés, à des lieux plus hauts, plus larges, plus grands, plus vastes. Donc, la lumière, l'espace. La lumière et l'espace, ça a généré un certain nombre de techniques nouvelles. Et alors, est-ce que vous avez des techniques, des idées de ces techniques architecturales, de ce vocabulaire architectural qu'on va développer à l'époque gothique pour faire l'architecture plus lumineuse et plus vaste?
Non pas l'arc en plein centre, mais l'arc brisé.
Alors, l'arc brisé, on va en reparler. Les arcs boutants, vous disiez peut-être. L'arc boutant, oui. Donc, l'arc boutant. Vous vous rappelez, on a parlé des arcs boutants tout à l'heure. Hein. Donc l'arc boutant qui permet que ça ne s'ouvre pas, hein, effectivement. On comprend bien, ça permet d'aller plus haut, etc. Ça permet quoi encore derrière l'arc boutant? Ça permet d'aérer.
D'alléger les murs.
Ça permet d'alléger les murs. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, vous ne pouviez guère sans arc boutant ouvrir les murs, parce qu'il y avait que les murs soient là pour tenir. Hein. Avec les arcs boutants, c'est eux qui tiennent. Donc vous pouvez alléger les murs. Les murs, ils n'ont plus, j'allais dire, d'utilité au niveau de la répartition des forces. Donc vous pouvez ouvrir, vous pouvez effectivement aérer pour y donner plus d'espace, hein, plus de lumière. Hein. Donc absolument. Ça c'est important, les arcs-boutants vont générer ça. Hein. On parlait également de l'arc brisé. Hein. Est-ce que ça c'est vraiment une caractéristique gothique? Est-ce que arc brisé, édifice gothique, arc en plein cintre, édifice roman? Oui. Oui.
Oui, non. Parce que, oui, oui, non. Oui. Parce qu'il y a eu des romans voilà. déjà brisés.
Exactement.
Mais qui étaient. Oui, mais.
Absolument.
Et qui étaient en continu, qui n'avaient pas de travée intermédiaire.
Voilà. En fait, l'arc brisé n'est pas une invention gothique. Hein. Ce qui est gothique, c'est la généralisation de l'arc brisé. C'est différent. Puis, vous voyez ce que je veux dire hein. Parce qu'on a des arcs brisés à l'époque gothique. Hein.
La répartition des forces sur quatre, sur des points.
Sur quatre piliers en particulier, oui. Oui, oui. Mais ça, en effet, c'est important. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose du monde qui montre cette évolution. À l'époque romane, c'est l'arc en plein cintre, à l'époque gothique, l'arc brisé. Non. Hein. Mais, par contre, ce qui est vrai, c'est que plus on va vers l'édifice gothique, plus les arcs sont systématiquement brisés. Vous voyez ? Alors qu'on en a à l'époque romane. Hein. Mais ils sont plus ponctuels, c'est pas systématique, etc. Hein. Il y a d'ailleurs autre chose qui aussi que souvent on voit comme étant l'invention gothique, hein, mais qui finalement existe à l'époque romane, même si ça va se généraliser à l'époque gothique. C'est mais quoi ?
Il y a l'idée de la voûte d'arête.
Alors, les vitraux, oui, ça va avec la... C'est ça. Ça va avec la question de la lumière dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc, les vitraux qui existent dès le Moyen-Âge roman vont se déployer beaucoup, effectivement, à l'époque gothique, parce qu'on a cet espace, cette lumière que l'on arrive à faire à cause du temps. Donc, on peut faire de plus en plus de vitraux, plus grandes, etc. Non, effectivement, l'autre élément que souvent on attribue au gothique de manière exclusive, mais qui existe dès l'époque romane, sauf que ça se systématise à l'époque gothique, c'est la voûte surcroisée d'ogive. Hein. Ce qu'on a vu à Amiens, là, tout de suite. Hein. La voûte surcroisée d'ogive, ça existe en fait dès l'époque romane, sauf que c'est employé ponctuellement ici et là, alors qu'à l'époque gothique, ça se généralise. Hein. Donc voilà, en effet, toute une série d'éléments du vocabulaire gothique, dont on voit qu'ils ne sont pas forcément gothiques, mais que vraiment on les généralise, on les perfectionne, on les utilise de plus en plus avec l'époque gothique. D'accord. Alors, on va déborder un tout petit peu, oui, mais oui. Pas trop. N'ayez crainte, il n'y a que 9 diapos. Ça vous va oui. Ça rattrapera les 10 minutes de retard du départ. Vous me direz, c'est chaque fois, on dépasse souvent. Mais enfin. Alors, avant toute chose, je voulais vous montrer ça. Parce que ça, je ne voulais pas montrer, c'est quoi ?
C'est ce qui est souligné.
De Tristounet ?
Parce qu'on a vu,
oui. Non, moi je trouve ça pas mal quand même. Hein. Non, on trouvait ça Tristounet. Non, bah. Non, pas Tristounet. C'est quoi ?
Ah, mais les arcs sont pas brisés au portail. Ils sont.
Ça dépend desquels. Là, vous avez quand même.
Non, mais au portail.
Là, vous avez des arcs. Voilà, ça c'est un peu brisouillé. Si
non, non, mais en dessous.
Ah, bah en bas, non. Ce monument, c'est quoi ?
C'est pas une église, monsieur.
C'est une église.
Pas une cathédrale.
Le problème des cathédrales, c'est celle de Chalon, c'est qu'une fois elles l'ont été, puis elles l'ont plus été, etc. Alors, on les appelle souvent cathédrales. C'est comme les premiers ministres ou les ministres tout court, on les appelle les ministres quand ils ne le sont plus. Hein. On continue de les appeler. C'est pareil pour les cathédrales, souvent. Donc, ça, c'est un monument qui est vraiment très important. Capital.
En France ?
Oh oui.
En Paris ?
Quasi.
Ah ben voilà, c'est Saint-Denis.
Voilà, Saint-Denis. Voilà. Restauré, effectivement. Voilà. Ça, c'est Saint-Denis. Alors là, il faut avoir l'image absolument imprimée dans nos têtes. Ça, c'est capital. Saint-Denis, c'est avec sens, d'ailleurs. Hein. Mais c'était encore plus important que ça, parce que Saint-Denis est quand même très, 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 très lié, très proche du pouvoir royal. Hein. Saint-Denis, c'est le moment vraiment où, grâce à un abbé qui s'appelle l'abbé Sugère, hein, vous le savez, hein, vraiment va, je dirais, s'implanter complètement et de manière décisive l'architecture gothique. Hein. Voilà. Saint-Denis, c'est, avec sens, encore une fois, les deux lieux de laboratoire qui font vraiment verser le roman vers le gothique, si vous voulez. Hein. C'est très tôt. Hein. Cette façade que vous avez là date de 1140. Hein. En gros, c'est la construction de la cathédrale d'Autun. Hein. Et on est là déjà devant des éléments qui vont vers le gothique. D'ailleurs, vous trouvez là cette façade harmonique dont je vous parlais tout à l'heure pour Amiens. Hein. C'est une façade qui dit à l'extérieur, avec son espèce d'organisation, de cohérence, ce qui se passe à l'intérieur. Hein, voilà. Alors, je voulais vous montrer ça, parce que ça, c'est un monument vraiment capital. Colva et Xens, c'est un peu les deux piliers sur lesquels se base en France la construction du gothique. Mais donc, je voulais vous passer plusieurs vues intérieures de monuments pour qu'on essaie un peu de les classer, un petit peu les voir. Ça, c'est le premier monument que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que vous y voyez ? On est dans une nef, c'est une élévation. Je vais vous montrer de toute façon 9 vues d'élévation intérieure de 9 monuments différents. Hein. Alors vous voyez, commençons par peut-être par le bas. Voilà les grandes arcades. Hein. Le triforium, vous voyez, c'est pas 3. Hein. Triforium, et puis ce qu'on appelle les fenêtres. Hein. Organisation très... qu'est-ce que vous voyez d'autre, d'ailleurs, quand même, de très étonnant
Ah oui, mais alors, la croisée, on regroupe deux travées pour la... voilà.
Effectivement, hein, c'est-à-dire que là, vous avez des voûtes un peu particulières.
Sexpartite.
C'est-à-dire que, voilà, sexpartite, hein, vous savez, il doit y en avoir 6, hein, vous avez effectivement deux travées qui sont regroupées sur une même voûte, hein, sur un même voûtement. Il y a autre chose d'ailleurs au niveau inférieur.
Les piliers.
Les piliers, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, vous avez une sorte de galerie qui donne sur des chapelles latérales, hein, qui sont à l'extérieur, si vous voulez, des bas-côtés.
Mais d'origine, là.
Pardon, mais d'origine, enfin, en partie du moins. Je crois qu'il y a eu des choses. Je ne sais pas si, à l'origine, ce n'était pas comme ça, c'est-à-dire aveugle, et s'il n'y a pas eu des éléments creusés. Oh, ces cathédrales, quelquefois. Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, hein, mais voilà, même. Mais. Bon, voilà, donc je me risquerai pas trop. Hein. Oui, qu'est-ce que vous remarquez dans ces arcades inférieures, là ?
L'arc, il est...
brisé.
Oui, c'est ça, il commence à se brisouiller, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Hein. Alors, on est au début. Hein. Voilà. Et puis, il y a autre chose. C'est que vous avez une succession de colonnes et puis de piliers. Vous voyez, c'est pas des colonnes ou des piliers, c'est colonne-pilier, etc.
Oui, hein. Mais ça correspond à la voûte.
Voilà, ça correspond à la voûte, c'est-à-dire que du fait de ce type de voûtement qui rassemble, si vous voulez, deux travées, on a été obligé dans la partie inférieure, pour des raisons assumées, hein, de faire comme ça, alterner des colonnes et des piliers. Ce qui, évidemment, j'allais dire, casse un peu l'impression d'homogénéité générale, si vous voulez. Hein, voyez. Vous dateriez ça de quand, vous ?
Fin 12e, début 13e.
Fin 12e, début 13e. Hein. Une idée du monument ?
Non.
Vous avez dit la première sur Rouen.
Ce serait Rouen ?
Ce que vous avez présenté en premier sur Rouen.
Ah, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas forcément le même ordre. Parce que je suis un peu malin. Mutin, du moins. Je mélange. Hein, donc, ce n'est pas forcément Rouen. On verra.
C'est Autun,
Saint-Savin. Ah
non, c'est Autun plutôt.
C'est Autun. C'est la cathédrale d'Autun.
Parce qu'il y a ces
pilastres. C'est notre cathédrale d'Autun.
Parce qu'il y a les pilastres cannelés.
Absolument.
Qui reprennent la porte d'Arou.
C'est ça. Vous avez effectivement des pilastres cannelés qui reprennent les pilastres cannelés de la porte d'Arou, de la porte Saint-André. Hein, c'est une reprise effectivement fameuse dans l'architecture romane d'un type antérieur et gallo-romain. Enfin, romain, antique. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez là dans cette élévation, la nef d'Autun ? Alors, dans le cœur, on va donc droit au cœur. Hein,
oui, mais il n'y a pas de croisée d'ogive.
Qu'est-ce que vous voyez dans le cœur ?
Il y a des doubleaux, pardon. Il y a des doubleaux sans ogive.
Ouais.
Sans croisée d'ogive.
Sans croisée d'ogive. Alors là, vous retournez à la nef.
Oui,
voilà.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que là, dans la nef, on a effectivement des arcs doubleaux. Et vous voyez que vous n'avez pas de croisée d'ogive. Oui, hein, oui. Vous n'avez pas les ogives qui se croisent. Hein, oui. D'accord ? Vous avez une voûte comment ?
En berceau.
En berceau. Vous avez une voûte en berceau.
En berceau brisé, hein, quand même.
Voilà. Un peu berceau brisé. Vous voyez, c'est un peu brisé. Enfin, hein. Oui. Donc, vous avez une voûte en berceau. Hein, en berceau, c'est-à-dire en demi-cylindre, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mm-hmm. Cylindre un peu brisé. OK. Et vous avez effectivement des arcs doubleaux qui viennent saturer, je dirais, la voûte en berceau. D'accord ? Mais retournons peut-être dans le fond, puisque vous commencez à en parler. Qu'est-ce que vous voyez dans le cœur ?
Il y a trois niveaux.
Trois niveaux. Un, deux, trois. Et qu'est-ce que vous disent ces trois niveaux ?
Il y a une aspiration vers le haut.
Oui.
Ils sont plus tardifs.
Plus tardifs ? Qu'est-ce qui est plus tardif ?
Le cœur.
Tout le cœur ? La partie supérieure du cœur. C'est-à-dire ça, ça date de l'époque romane, mais pas ça. Ça, ça date du XVe siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au XVe siècle, le clocher de la cathédrale d'Autun s'est écroulé. Écroulant le cœur qu'il y a derrière. Enfin, la partie supérieure du cœur. Hein. Bonsoir. Ce qui fait que... on a au XVe siècle, c'est d'ailleurs Jean Rollin, vous savez, le fils de Nicolas Rollin, hein, qui a fait reconstruire non seulement le clocher de la cathédrale d'Autun date du XVe siècle, hein, mais également la partie supérieure du chœur, qui est, elle, très gothique, si vous voulez, hein, un gothique sobre, mais un gothique quand même, vous voyez, avec ses grandes verrières immenses qui n'en finissent pas, au-dessus des niveaux inférieurs qui sont, eux, bien romans. Hein. Et puis l'élévation de la nef, ou la comment est-ce que vous la voyez, ou la qualifiez comment ?
Les triforiums et les fenêtres hautes sont basses, je trouve.
Oui, c'est ça. C'est... Alors, vous avez toujours hein, les grandes arcades, vous avez le triforium. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez, il a une particularité, ce triforium. Il est bouché. C'est ce qu'on appelle un faux triforium. C'est-à-dire, c'est un triforium bouché. Enfin, il y a deux fenêtres qui sont bouchées. Vous le voyez mal, là, hein, mais vous le voyez peut-être là. Vous avez à chaque fois... Alors là, il y a trois baies, effectivement, mais les deux latérales sont fermées alors que celle du centre est ouverte. C'est ce qu'on appelle un faux triforium. Un triforium, normalement, c'est ouvert. Hein. Là, c'est un faux triforium en partie bouché. Puis vous avez au-dessus les fenêtres hautes. D'accord ? On est là, quand vous datez ça, de quelle période ? 11e ?
Non.
13e ?
12e.
12e ? Plutôt début 12e, plutôt fin 12e ? Plutôt 1120, plutôt 1180 ?
Ah, mais si on est en haut ou en bas ?
1180 ? Ouais. Ça, vous le mettez avant ou après la photo que je vous ai montrée avant ? C'est 1-2 ou c'est 2-1 ? Avant. Donc ça, c'est antérieur à ça. Hein. Ça, c'est après ça. D'accord. Et puis ça. Ça, c'est postérieur. Donc pour l'instant, on serait à 2-1-3, si je comprends bien. Il y en a 9. Hein. Il n'y aura pas trop à se garder en tête. Hein. Alors là, comment est-ce que vous décrivez cette élévation de cette nef, de cette cathédrale, qui est... Quelle cathédrale ? Pardon ? J'ai entendu quelque chose ? Paris. C'est la cathédrale de Paris. Ce que vous voyez là, c'est l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Quelle est la spécificité ? Alors oui, tellement grand d'ailleurs que c'est plus vraiment ce qu'on appelle un triforium. C'est ce qu'on appelle une tribune. Oui. Parce que dans certains cas, le triforium n'est plus espèce des trois passages que vous avez à la cathédrale de Châlons, par exemple. Hein, qui, bon, un passage est trois, il faut être plat, on prend toute l'étoile d'arrière, enfin, c'est pas la joie. Quoi, hein. Là, c'est vraiment une grande tribune hein, qui vraiment se déploie sur les bas-côtés. Hein.
Oui, mais il y a la troisième nef.
Pardon ?
Il y aura la troisième nef qui va contrebuter.
Tout à fait. Absolument. Donc, si vous voulez, la tribune est possible du fait, justement, de cette extension en largeur, pourrait-on dire. Hein. Donc vous voyez que vous avez toujours cette élévation avec arcade inférieure, les grandes arcades, le triforium qui est une tribune et les fenêtres hautes. Hein. Une petite chose au niveau du niveau inférieur de l'élévation peut-être. Ben, vous remarquez que là il y a une colonne sur laquelle il y a une colonne engagée.
Oui et pas ailleurs.
Qui marque en fait là aussi des époques de construction. Hein. On a, pour des raisons que j'ai lues, mais je ne sais plus, je crois que c'était des raisons très techniques, de contrebuter, on a dû épaissir ces colonnes-là à un moment où on construisait l'église, parce que bah, il fallait que ça tienne mieux. Oui, hein. Voilà. Donc quelquefois, ce genre de détail peut correspondre à des avancées dans le chantier. Donc 3, Notre-Dame de Paris. 4. Vézelay, fastoche. Hein. Vézelay, ça c'est très reconnaissable. Là c'est trop facile. Hein. Enfin, de temps en temps. Voilà. Alors qu'est-ce que vous auriez à dire là aussi ? Élévation de la nef ? Il n'y a pas de triforium. Vous avez arcade et fenêtre haute. Point de triforium. Hein. Le voûtement ?
En berceau.
En berceau. Avec.
Des doubleaux.
Des arcs doubleaux.
Des arcs doubleaux, hein, mais bon. Décoratifs.
Deux couleurs de pierre. On a effectivement beaucoup joué à Vézelay dans la pierre même. Souvent, c'était sur la peinture hein, qui ornait les pierres. Vous savez, très souvent, tout ça a été, non pas entièrement, mais largement peint. Et beaucoup de ces éléments peints ont disparu. Bon. Mais là, effectivement, à Vézelay, on a utilisé des pierres différentes. C'est elles qui donnent la polychromie de l'architecture. Hein.
Par contre, le cœur a un triforium.
Le cœur a un triforium. Hein. En fait, le chœur, lui, à Vézelay, a été construit un peu plus tard. Hein, parce qu'il y avait un chœur, mais l'église a partiellement brûlé. On a reconstruit un chœur, tardivement, mais tôt quand même, hein, déjà très gothique, au bout de la nef encore très romane, si vous voulez. Hein. Alors, ça ne date pas du XVe siècle corotin, c'est plus précoce, hein, mais on a vraiment un chœur assez gothique à Vézelay, pour une, assez gothique primitive, si vous voulez, hein, pour une nef hein, qui, elle, est très romane. Ok.
On dirait qu'il n'est pas dans le même axe.
Je crois que Vézelay fait partie de ces lieux oui, où, en effet, je ne sais pas si c'est pas à Vézelay qu'on a commencé des deux bouts en même temps. Ce qui fait que, bon, vous voyez, le raboutement des deux a été un petit peu compliqué. Je me demande si c'est pas Vézelay. Je peux me tromper, mais... Là, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Élévation.
Standard,
impec. Hein. Deux grandes arcades, un triforium, des fenêtres hautes, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous avez des voûtes surcroisées d'ogives, superbes, tout ça est très bien. On est où ? Alors, ça pourrait être Amiens, mais ce n'est pas Amiens. Amiens est beaucoup plus haut que ça, plus élancé en fait. Ça pourrait être Reims, ce n'est pas Reims. Donc, on verra ce que c'est tout à l'heure. Mais en tout cas, on est là devant quelque chose, effectivement, qui est une sorte d'idéal, hein, d'idéal du début du gothique. Là, il y a du monde. Hein.
Non, mais elle est lustre.
Hein?
C'est haut, là.
C'est haut. Et puis, c'est pas que haut, d'ailleurs. Hein. C'est... D'ailleurs, ça doit vous donner une idée.
C'est Amiens.
C'est pas Amiens.
Bah, celle qui était très large, là.
Vous voyez celle qui est très large.
Oui,
mais non, qui a 5
portails. Oh, bah, si vous en rappelez.
Bah oui, mais je vois pas qu'elle
est. Celle qui est très large. Oh, bah non, vous en rappelez de votre tête. Bourges. Bourges. C'est Bourges, hein. Bourges, il y a, vous avez deux bas-côtés, hein, de chaque côté. Donc 4. Hein. Voilà, ça c'est Bourges. Hein. Donc là, vous voyez effectivement une élévation qui se complique parce qu'il y a deux bas-côtés, quoi, hein, de chaque côté. Ça fait beaucoup. Hein. Alors l'élévation, elle est assez normale, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire vous avez des arcades, un triforium, il y a des fenêtres hautes. Mais le problème, c'est que vous avez, encore une fois, deux bas-côtés de chaque côté. Quoi. C'est une cathédrale qui se répand en largeur. Hein. D'accord ? 7. La Sainte-Chapelle. Hein. La Sainte-Chapelle. Bon, alors là, c'est quoi ? C'est magnifique. C'est extraordinaire. Alors là, ça illustre caricaturalement hein, la problématique du gothique. Hein. C'est hauteur-lumière, ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Et donc vitraux. Hein. Il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur. C'est pas la peine, puisque de toute façon, il y a les arcs boutants. Voilà. Donc ça tient. Ça tient. Hein. Donc ça, c'est évidemment... extravagant. L'époque
Saint-Louis.
Saint-Louis, mais encore 14e, 13e. 13e. Fait. On verra après si c'est bon tout ça. Hein. Ah ouais, c'est curieux. Arcade, hein, les grandes arcades.
Oui, en fait, tribune.
Tribune. Triforium. Et fenêtres hautes. Là, vous avez carrément deux niveaux. C'est-à-dire la tribune de chez tribune, si j'ose dire, et le triforium au-dessus. Hein. Donc, vous voyez, quelquefois, on a... C'est pour ça que c'est utile d'avoir ce vocabulaire à la place du cathédrale un peu impec comme autun, parce qu'après, on voit tout de suite, assez facilement, hein, l'évolution et les différences de l'une à l'autre.
Hein. Il n'y a pas toujours des colonnes simples.
Non.
Tout d'un coup, apparaissent deux fois...
Et à la croisée du transept, là, vous avez carrément les grosses piles. Hein. Mais effectivement, vous voyez qu'il y a une évolution. Là, vous avez des colonnes. Et là, vous avez soit des espèces de colonnes, mais qui sont agrémentées de colonnes engagées, soit des colonnes toutes simples.
Contenu.
Là, je pense pas. Vous n'avez pas d'idée du lieu. Angers. Acceptons-en l'augure.
Oula, la photo.
C'est
oui, oui, elle est assez impressionnante, je trouve. Alors là, c'est quoi ? Donc, c'est, on est dans quelle partie d'une église là ?
Du cœur.
On est dans le cœur.
Alors, est-ce que ce serait Beauvais ? Est-ce que ce serait Beauvais ?
Pardon ?
Beauvais ?
C'est Beauvais. C'est Beauvais.
Parce que le cœur existe, mais pas...
Voilà, le cœur existe, mais ça s'arrête au transept. Voilà. Donc c'est le cœur de Beauvais. Ça se situe quand, ça?
Fin.
Voilà, tardi. On est en effet dans le... Je dirais la fin de l'évolution du... on n'est pas quand même trop tardif. Hein. Enfin, on est à la... On a la fin de l'évolution du, j'allais dire, historique du gothique. Hein. Bon, on n'est pas non plus au gothique flamboyant.
Le transept est plus complexe.
Oui. Et qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à l'élévation, là aussi? Alors, elle est un peu coupée, hein, mais très classique. Hein, vous avez les arcades, le triforium, les fenêtres. Et là, alors, vous remarquez ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette recherche de la lumière. Hein. Bon, il y a les arcs boutants, décidément, ils ont permis à Sainte-Chapelle d'éliminer les murs, mais à Beauvais aussi, sur des proportions bien plus gigantesques. Hein. Ça n'a rien à voir, la Sainte-Chapelle, vous la mettez deux, là. Hein. C'est un bébé, la Sainte-Chapelle. Hein. Là, c'est énormissime. Hein. Je ne sais pas combien ça fait de haut, je me le dis tout le temps, mais c'est immense. Hein. Bien. Alors maintenant qu'on a vu ça, et pour juste terminer, on va remettre ça dans le bon ordre. Hein. C'est la correction des copies, puis après, on arrête. Voilà. Alors la première, vous l'aviez effectivement notée, c'est Autun. Hein. Voilà. C'est donc la photo 2 en premier. Hein. On est vers 1130. Hein. C'est début du 12e siècle. Hein, quand même, hein. Sauf la partie haute du cœur, 15e, on l'a vu. Ensuite, c'est effectivement Vézelay, hein, mais ça, vous l'aviez également bien reconnu. Hein. Alors, on est, pour la nef, autour de 1135. Pour le chœur, là-bas, on est vers 1190. Hein, c'est la fin du 12e. Il faut bien comprendre hein, que l'art gothique, ce n'est pas le 13e. Ça commence vraiment avant. Hein. D'ailleurs, rappelez-vous, Saint-Denis, c'est dès la première moitié du 12e siècle. Hein. L'art gothique, ça commence très tôt. Hein. Souvent, on se dit 12e art roman. Non. Et puis, encore une fois, hein, cette idée art roman, art gothique, elle est un peu fausse. Faut un peu la casser, même si elle est utile à garder en tête. Hein. Mais il faut comprendre qu'il y a une fluidité beaucoup plus grande.
Et hein. Puis, il y a un narthex à Vézelay. Il y a un narthex à Vézelay.
9 en nef.
Oui.
Ça, ce que je vous ai montré là, vous rappelez, c'était la première photo. En fait, c'est Sens. Donc, très tôt, hein, très tôt, on est là en 1135, hein, première moitié du 12e. Hein, et on est là, donc, devant cette élévation. Je vous dis, Sens et Saint-Denis, hein, c'est les deux piliers de, on va dire, de la floraison gothique. Là, ben, Notre-Dame de Paris, vous l'aviez bien vu, hein, on est vers 1170, hein, c'est-à-dire dans la fin du 12e siècle. Hein, mais vous voyez que, décidément, là aussi, hein, cette idée 13e siècle égale roman, 12e siècle égale gothique, doit être absolument revue. On est là dans une élévation de fait gothique qui date du 12e siècle. Hein. Ça, alors là, vous aviez un peu séché, c'est Chartres. Chartres. Hein. On est là, extrême fin 12e, tout début 13e, hein, devant ce qui va précéder le grand gothique classique de Reims et d'Amiens, si vous voulez. Hein. Reims et Amiens, c'est un petit peu plus tardif. Là, on est à la fin 12e, début 13e, dans, je vais dire, une sorte de gothique idéal, un vrai gothique primitif, si vous voulez. Hein. Voilà. Juste après Sens, si vous voulez, et Saint-Denis, on est à Chartres devant une espèce de gothique primitif. D'ailleurs, ce gothique-là, ce gothique classique, pourrait-on dire, hein, il va voir, je veux dire, face à face, deux tendances. Il y a la tendance Chartres, qui est la tendance très cohérente, vous voyez, très verticalité. Hein. Tout ça est quand même très clair hein, quand on voit ça. Hein. Verticalité, en même temps, l'horizontalité est également bien dessinée. Mais enfin, on voit là, je veux dire, une structure très vieille. Alors que l'opposé, c'est ça. L'opposé, c'est Bourges. Hein. Voilà. Bourges, c'est, on s'étale. Hein, et on va décupler comme ça le volume, si vous voulez. Hein. Ça, c'est les deux grandes tendances du gothique classique. Il y a la tendance Chartres. On est un peu voilà, rigoureux, on monte et en même temps on est horizontal. Et puis on a la tendance Bourges qui se répand. Enfin, je caricature un peu, hein, mais c'est ça l'idée. Hein. Vous ne l'aviez pas trouvé, mais je comprends. C'est une cathédrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la cathédrale de Laon. Parce que vous avez quelquefois, évidemment, des tas de variations sur le thème. C'est le cas à Laon, où vers 1200, on fait ça. C'est-à-dire cette élévation avec et une tribune et un triforium. Hein, ce qui est vraiment très singulier. La Sainte-Chapelle arrive là-dessus. Hein, après tout, c'est Saint-Louis, c'est le XIIIe siècle, 1248. Hein. Et puis après, eh ben, on a Beauvais, hein, qui est le dernier lieu. Là, on est au milieu du XIIIe siècle. Voilà. Ben écoutez, je crois qu'on a largement dépassé l'heure, hein, il fallait rattraper le retard que je vous ai fait subir tout à l'heure. Mais eh bien écoutez, bonne soirée, merci. Et bien on se revoit dans une semaine. Bravo à vous. Alors je vais vous mettre le conférence dessus.